Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'écho local en direct tous les jeudis à midi sur Couleur FM et en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi. Au sommaire aujourd'hui, nos invités de la semaine seront Sandrine Frison, Annick Néron, Gisèle Milsen et Michel Lemaire. Sans oublier nos petits reporters, le disque de la semaine et la chronique cinéma de Véronique Boulieu qui nous présentera les sorties de la semaine au cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire. Des interviews, des chroniques et de la bonne musique, c'est parti pour l'écho local avec Estelle et Véronique.
Merci William, le réalisateur de notre émission. Bienvenue à tous les Nord-Isérois dans notre rendez-vous hebdomadaire, mais n'oublions pas aussi tous ceux qui nous écoutent sur Internet afin de ne rien rater de l'actualité. Nous sommes ensemble pour une heure. Bienvenue dans ce 21e numéro et bonjour Estelle.
Bonjour Véronique. Aujourd'hui, on change, c'est moi qui fais l'interview du jour. Et aujourd'hui, dans l'écho local, nous accueillons Sandrine Frison, la présidente de l'association Chromosome Surprise Soutien à Camille & Co. Bonjour Sandrine.
Bonjour.
Alors le 21 mars justement, c'est la journée mondiale de la trisomie 21. À cette occasion, vous organisez le dimanche 19 mars une rencontre pour réunir les enfants et les familles autour des arts à partir de 14h30 à la cité de la cave de Bourgoin-Jallieu. Mais juste avant de parler de cet événement, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association?
Alors cette association est née grâce à Camille, donc qui commence à être un petit peu connue dans la région grâce à sa particularité mais aussi à ses titres de championne du monde et en étant une athlète, une sportive de haut niveau. Mais avant tout, c'est une jeune fille comme tout le monde qui a des rêves et qui voudrait les réaliser. Donc je lui ai permis de les réaliser jusqu'à présent. Et j'ai permis aussi à d'autres familles de pouvoir continuer leur intégration, leur inclusion dans la société en les accompagnant, en les écoutant et en les soutenant. Donc cette association a été créée pour ça, pour être une plateforme d'écoute, d'échange et de partage et que les parents ne se sentent pas seuls.
Alors aujourd'hui, l'association compte combien de membres ?
Alors, elle a 90 membres pour l'instant. Elle a tout juste un an, donc c'est vraiment très très récent. On a déjà fait une rencontre et j'interviens aussi dans des lieux de sensibilisation. Hier, j'étais à l'Ulysse Collège de Saint-Jean de Bournay avec Camille. On a rencontré les collégiens aussi de Saint-Jean de Bournay pour les sensibiliser à la différence, que malgré la différence, on peut faire de belles choses et que même eux, s'ils sont différents, eux aussi, ils ont toutes les billes, ils ont une super équipe qui est là pour les accompagner et il faut qu'ils s'en donnent la peine et qu'ils n'hésitent pas.
Alors, on le disait tout à l'heure, le dimanche 19 mars aura lieu la deuxième édition des Arts sans différence. Un joli jeu de mots, justement.
Oui, parce que pourquoi on mettrait une différence ? Parce que la trisomie se voit, ça c'est sûr. Certains handicaps se voient, d'autres se voient moins. Mais je veux que, avant tout, ces familles soient des familles et qu'elles partagent des bons moments. Voilà.
Alors, quelles sont les activités qu'on va retrouver pour cette journée ?
Alors, on va retrouver, bien sûr, la peinture avec deux peintres de la région, Isabelle Grouzel et Jean-Claude Joseph. On va aussi retrouver les tableaux des artistes que Isabelle suit à l'envolée, parce que il faut mettre aussi en avant déjà les actions faites et montrer que on peut, malgré notre particularité, être aussi un artiste. Il va avoir aussi Soleil de Clown, une belle association qui amène le sourire aux enfants en milieu hospitalisé et qui a décidé de faire un partenariat avec nous pour aussi amener du soleil à nos jeunes. Il y a aussi un groupe que personne ne connaît, c'est la surprise en fait. Il s'appelle Jours étranges et c'est quatre personnes extraordinaires, comme on pourrait dire, qui vont venir nous chanter et interpréter leurs petites chansons. C'est quatre personnes porteuses d'handicap qui sont du foyer de Meusa et accompagnées de leur éducateur qui met leurs mots sur des musiques. Ils vont venir nous interpréter des chansons qui sont assez percutantes, je dirais, parce qu'on a une qui parle des attentats. C'est leur façon d'extérioriser ce qu'ils ressentent. Voilà, il y a l'art culinaire, il y a les arts du cirque, il y a des conteuses, il y a la ludothèque de la CAF qui nous sera ouverte avec des jeux pour partager en famille. Il y a aussi Sofiane qui va venir faire de la boxe, des jeux de position. Il y a une association qui s'appelle Etc. qui fait du tai chi aussi pour personnes porteuses de handicap qui viendra aussi partager. Une jeune femme qui viendra nous faire découvrir la zumba. Enfin, plein de belles choses pour que tout le monde puisse toucher, participer. Il y a aussi toujours les profs de musique, je les avais oubliés, qui seront là pour faire toucher leurs instruments et puis peut-être faire plaisir à des enfants.
Alors, comment ont été choisis? Est-ce que vous êtes en lien avec justement toutes ces associations, ces personnes?
Ben, c'est un peu grâce à Camille, on va dire, parce que ces associations, ben, je les ai rencontrées lors des forums des associations, sur des lieux où on va avec Camille. Il y en a une que j'ai oubliée, c'est les Mademoiselles de l'Isère qui vont venir nous soutenir bénévolement. Et en fait, c'est grâce à elles qu'on partage, on échange, on a le même but, c'est apporter du bonheur et réaliser les rêves des enfants. On n'est pas là pour financer quelque chose, on est là pour accompagner un projet humain.
C'est la deuxième édition. Est-ce qu'il y a des différences par rapport à la première? C'était même logique pour vous de reconduire cette deuxième édition?
Oui, bah c'est logique. On a deux journées. On a une journée nationale et une journée mondiale. Et c'est la journée mondiale, elle est bien aussi parce que elle parle du monde. Et qu'on soit en Amérique ou ailleurs, on a à peu près tous les mêmes difficultés pour faire reconnaître nos enfants, nos jeunes. Et ce jour-là, le jour du 21 mars, on doit mettre des chaussures ou des chaussettes dépareillées pour montrer que malgré la différence, on peut avancer ensemble et avoir de beaux projets. Et c'est ça le but de notre association, c'est que montrer qu'ensemble, on peut faire beaucoup, beaucoup de choses et que tout est possible.
Alors, il faut s'inscrire justement pour y participer?
Alors, il est préférable de s'inscrire pour que nous, on sache combien on sera à peu près. Après, si les gens, au dernier moment, parce que je sais très bien que les familles où il y a des personnes porteuses de handicap, des fois, ils attendent un peu la dernière minute parce que l'enfant a des problèmes de santé aussi. Ils sont toujours les bienvenus, ils sont accueillis, tout est mis en place, quel que soit l'handicap, en fauteuil, n'importe quel handicap, c'est le bienvenu.
Alors, pour vous contacter, justement, on va peut-être redonner vos coordonnées.
Alors, pour nous contacter, on peut envoyer un mail sur info.chromosome.surprise@gmail.com ou alors me téléphoner directement sur mon portable au 06 45 15 44 98.
Alors, pour revenir justement à ce fameux chromosome 21, est-ce que les choses ont évolué depuis que vous avez effectivement une enfant qui est atteinte de cette maladie?
Ce n'est pas une maladie, c'est une maladie génétique. Depuis que Camille est là, on va dire qu'il y a eu des progrès à un moment. Il y a eu des parents, quand Camille est née, des parents qui se sont battus pour des créations de CLIS, pour qu'il y ait des inclusions qui soient faites dans le milieu scolaire. Grâce à eux, la loi de février 2005 est née. Imposons un peu à l'État et à l'éducation nationale à ce que nos enfants soient scolarisés. Après, dans les faits, c'est très compliqué. On fait même un retour en arrière. Nos enfants porteurs de la trisomie 21, on veut les inclure dans une case qui s'appelle l'institutionnel. Et non, j'estime que, bien sûr, pas toutes les personnes trisomiques, mais certaines peuvent être dans le milieu ordinaire. Camille est au lycée à Grand Bêta. On a créé des choses qui n'existaient pas. On a bousculé l'éducation nationale et puis l'éducation nationale se dit ouais, c'était possible. Donc il y a une deuxième jeune fille qui a pu faire son entrée au lycée cette année. Et il faut arrêter de dire trisomique doit aller en institution. Non, il faut s'adapter à eux, à leurs compétences et leur permettre de développer leurs compétences.
Quels sont les gros projets que vous menez et que vous aimeriez voir aboutir pour justement tous ces enfants qui vont devenir des adultes en plus?
Qu'ils arrivent à peu près, on sait qu'ils ne sont jamais vraiment autonomes, on sait que ça sera une semi-autonomie, qu'il y aura des moments où ils pourront vivre pratiquement comme tout le monde, mais après il ne faut pas se leurrer non plus, il faut vraiment que les parents prennent conscience de tout cela. Moi le projet c'est de pouvoir accompagner des familles comme j'accompagne une autre famille aussi, là j'étais une ESS hier avec elle, c'est l'amener à avoir un futur et ne plus être angoissée comme moi j'ai pu l'être ou être stressée et oppressée par la société, parce que la société ne nous fait pas de cadeaux, parce qu'elle estime que nos enfants devraient être détruits avant la naissance, parce que c'est un coût pour la société, mais est-ce qu'ils ont pensé qu'en nous imposant de détruire nos enfants à la naissance, on nous imposait aussi de souffrir toute une vie. Moi, je me bats pour ça, mais après, je veux qu'on laisse le choix aux parents de prendre la bonne décision, la décision qui leur convient. On n'a pas à juger si une famille décide d'arrêter sa grossesse, mais on n'a pas à lui imposer d'arrêter sa grossesse.
Est-ce qu'il y a des avancées du point de vue médical?
Du point de vue médical, oui, parce que maintenant, nos jeunes, on sait très rapidement s'ils ont un problème cardiaque. Camille est opérée rapidement à cœur ouvert. Moi, je la fais suivre à l'Institut Jérôme Lejeune à Paris une fois ou deux fois dans l'année, parce que là-bas, il y a un centre de recherche qui prend en considération nos enfants et qui veut améliorer tous leurs problèmes de santé. Oui, parce qu'il y a des problèmes de santé qui a comme la glande thyroïde, des cataractes congénitales, enfin pas mal de petites choses. Ils sont plus sujets à avoir des cancers foudroyants. Donc ils sont bien suivis. On fait des recherches, on améliore tout ça pour qu'ils puissent mieux vivre. Hélas, c'est à Paris, c'est le professeur Lejeune qui est assez controversé. Je ne parle pas de conviction religieuse, je parle d'un homme qui s'est donné corps et âme pour nos enfants et le reste de la fondation qui se bat encore pour que nos enfants aient des droits et qui se bat pour qu'ils soient en bonne santé, qu'ils puissent bien vieillir comme tout le monde.
Alors, est-ce que vous avez vu un changement dans le regard des autres? Alors, notamment, on a en pleine actualité, actuellement, cette jeune fille qui a souhaité présenter les bulletins météo. Est-ce que vous pensez que ce sont des choses qui sont à faire, à ne pas faire? Quelle est votre position, si vous en avez une?
C'est bien, parce que Mélanie va pouvoir vivre son rêve. Ça, c'est très bien. Après, moi, quand j'ai posté ça sur Facebook, elle avait à peine 500 likes. Moi, j'ai eu un petit retour, parce qu'il y a aussi des personnes adultes porteuses de la trisomie 21 sur mon mur. Et il m'a dit, mais moi aussi, j'aimerais vivre un rêve. Pourquoi tout le monde sur Mélanie et pas sur moi? Oui, il faudrait qu'on permette à tous de pouvoir vivre un jour leur rêve ou peut-être d'accomplir un rêve, tout simplement de vouloir travailler dans le milieu ordinaire. Comme Camille a envie de travailler dans le milieu ordinaire, je peux vous dire que c'est très compliqué. On n'est pas tant soutenu que ça. Bien sûr que c'est difficile de trouver un travail, même pour une personne ordinaire. Mais pour une personne porteuse de handicap, c'est encore pire que ça, surtout quand on est trisomique. Puis bon, Camille, elle a une double charge, comme je dis en rigolant. Elle est sportive de haut niveau aussi, donc là, les patrons prennent un peu peur. Mais bon, elle est encore encore l'éducation nationale jusqu'en juin, mais c'est pas pour longtemps, je travaille pas pour qu'elle ait un futur. Mais c'est très compliqué.
Est-ce que vous voyez que le regard a changé ou pas?
Par rapport à Camille, je peux dire qu'elle n'amène que sourire. Les gens ont envie d'aller vers elle, elle a envie d'aller vers eux, d'échanger. Après, ce n'est pas le cas de tous. Parce que, oui, il y en a d'autres qui ont des surhandicaps, comme des TOC autistiques ou d'autres maladies qui sont là et qui font peur. Donc oui, encore, je dirais plutôt beaucoup de préjugés quand même. Et plutôt à se dire, oui, il va mordre, il va griffer. Non, c'est pas le cas du tout. Voilà.
Alors, on rappelle à tous la journée du 21 mars. C'est la journée mondiale de la trisomie 21. Votre événement le dimanche 19 mars pour la deuxième édition des Arts en Différence. Et puis, on va vous laisser choisir. Vous nous avez apporté une pause musicale.
J'adore aussi la chanson de Jean-Jacques Goldman, « Je te donne ma différence ». Parce que Camille nous a apporté sa différence. Mais tous ceux que je côtoie, que j'accompagne, m'apportent le plus beau des rayons de soleil dans ma journée. Voilà.
On l'écoute. I can give you a voice, pray with rhythm and soul. The heart of a Welsh boy who's lost his home. Je crois. Vous êtes sur Couleur FM dans l'émission L'écho local. C'était Jean-Jacques Goldman. Je te donne le coup de cœur musical de notre invitée de cette semaine, qui est Sandrine Frison, présidente de Chromosome Surprise.
Le troisième forum des initiatives pour l'emploi aura lieu ce mardi 14 mars de 9h à 17h à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Véronique Boulieu a rencontré Annick Néron, conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle, à la formation, à l'emploi et à l'égalité des femmes.
Troisième édition, est-ce qu'on peut faire juste un petit retour sur les éditions précédentes ?
Oui, alors qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Bon, déjà que la première édition a eu lieu en 2015, que c'était effectivement le premier forum de l'emploi qui se passait à Bourgoin-Jallieu. C'est une idée que j'avais déjà lancée avant même la fin de la campagne, parce que ça me semblait être quelque chose d'extrême, une action extrêmement visible et qui serait le point de départ d'autres actions en fait. Voilà, donc le premier forum a été plutôt un grand succès. Bon, relativement compliqué à organiser parce qu'il n'y avait absolument aucun service emploi auparavant au sein de la mairie de Bourgoin-Jallieu. Donc je me suis appuyée sur mes expériences personnelles, ma connaissance donc du réseau emploi pour le mettre en place. Et puis le deuxième forum a été beaucoup plus facile à organiser, mais c'était encore un gros challenge parce qu'on pouvait avoir fait un coup sur le premier, mais le deuxième était la confirmation d'un véritable besoin et d'une nécessité d'avoir un deuxième forum de l'emploi dans le Nord. Donc j'ai été rassurée, on a accueilli donc 1200 personnes, à peu près 900 à 1000 personnes lors de la première édition, mais 1200 lors de la deuxième édition. Et puis on s'est rendu compte à travers les thématiques qui ont été proposées que c'était vraiment une réponse aux besoins et il y a eu des rapprochements, il y a eu bien évidemment des conférences, en particulier une sur l'emploi des seniors, mais des offres qui ont été pourvues le jour même et puis dans les semaines et les mois qui ont suivi. Donc voilà, le troisième s'est préparé, on va dire, avec plus de fluidité et quand même avec moins de stress.
Alors cette année, vous faites un focus sur les services à la personne et sur les commerces.
Voilà, alors l'an dernier, j'avais choisi de faire un focus donc sur le bâtiment et sur le développement durable. Chaque fois, si vous voulez, mon souhait, c'est de coller à l'actualité locale, enfin, l'actualité de Bourgoin-Jallieu. Donc il y a énormément de choses qui se construisent à Bourgoin-Jallieu, le bâtiment, en plus le bâtiment, j'étais persuadée que ça allait redémarrer, donc ça me semblait très intéressant, puis on a quand même la chance d'avoir de belles entreprises locales comme Chanu, comme Moulin TP, qui ont un formidable projet qui est pratiquement achevé, celui de la Folatière, donc c'est intéressant de mettre un focus sur ça. J'avais aussi choisi le développement durable parce que je pense que c'est l'avenir, et donc cette année, les services à la personne, toujours en lien avec la Folatière, qui a une résidence senior qui va exister, et puis le commerce, le commerce, je pense que le commerce souffre, en particulier à Bourgoin-Jallieu, et on a besoin de montrer toutes les initiatives qui existent donc à Bourgoin-Jallieu au niveau du commerce. Donc c'est vraiment à un moment donné mettre un focus, mais j'insiste très très lourdement pour dire que tous les secteurs d'activité seront représentés lors du 14 mars, pas simplement les services à la personne ou le commerce.
Combien d'exposants sont attendus ?
70, on ne peut jamais aller au-delà, hein, tout simplement par rapport à la surface de la salle polyvalente. 70 exposants, dont une quarantaine d'entreprises, donc tous secteurs d'activité confondus, et puis après une trentaine de partenaires. Enfin, les entreprises sont bien évidemment des partenaires aussi, mais on va dire autour de les 30 autres partenaires, la formation, l'orientation, l'emploi, etc.
Est-ce qu'il est difficile de convaincre des entreprises de venir sur des tels forums ?
Eh bien, écoutez, la première fois, c'était quand même pas très facile puisqu'ils n'avaient pas l'habitude, hein, et aucun lien n'était créé. Le service économique de la BRI de Bourgoin-Jallieu n'avait jamais travaillé sur l'emploi, avait travaillé sur les commerces, pas vraiment avec les entreprises directement. Donc, la première fois, ça a été assez compliqué parce qu'il n'y avait pas d'existant, pas d'antériorité. La deuxième fois, beaucoup plus facile. Là, cette fois-ci, ça s'est passé avec une certaine fluidité, mais bon, on est là aussi pour les convaincre, hein, bien évidemment.
Alors, qu'est-ce qu'on pourra faire sur les différents stands ? J'ai vu qu'il y avait des conférences, des ateliers. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ?
Oui, bien sûr. Alors, donc, il y aura effectivement, vous avez deux secteurs d'activité qui vont être donc mis en lumière, mais tous les autres secteurs seront bien présents. Et on aura donc une conférence vraiment, moi, je trouve très, très intéressante. Et tous les partenaires ont participé. C'est une conférence donc sur la transférabilité des compétences. Parce que finalement, le Nord-Isère a une particularité, bien évidemment Bourgoin-Jallieu, c'est qu'en fait on a plus d'offres d'emploi que de demandeurs d'emploi. Et pourtant notre taux de chômage est extrêmement élevé, en particulier à Bourgoin-Jallieu. On n'arrive pas à mettre en lien les offres d'emploi locales et les demandeurs d'emploi locaux, ce qui est quand même une gageure. Donc tout le monde réfléchit à cette problématique, en particulier la CAPI, puis bien évidemment les institutionnels et les de l'emploi, comme Pôle emploi, la mission locale, mais Pôle emploi travaille aussi beaucoup sur cette notion de compétences. Donc le but, c'est à un moment donné, c'est de faire émerger les compétences des demandeurs d'emploi et de voir comment elles peuvent être transférables, de façon à pouvoir les emplois locaux et que ce ne soit pas des personnes hors du Nord-Isère qui viennent les occuper.
Vous avez choisi aussi un thème qui n'est pas facile, le handicap.
Tout à fait. Alors ça, c'est aussi, on en a parlé, c'est Madame Drevet qui est la responsable des ressources humaines donc de la mairie de Bourgoin-Jallieu qui m'a proposé ce thème. Moi, j'avais pensé à un thème autour de la souffrance au travail, mais le handicap, c'est un véritable enjeu pour toutes les entreprises, qu'elles soient privées, publiques. On peut très facilement se retrouver avec un problème de santé, en particulier quand on est senior, si on a exercé des métiers un peu pénibles, on peut avoir des problèmes de dos, des problèmes de genoux, des problèmes, etc. Personne n'est à l'abri d'un problème de santé, donc on doit pouvoir rebondir suite à une difficulté, à un handicap, etc. Et c'est vrai que les entreprises sont extrêmement frileuses parfois pour employer des personnes qui ont un handicap, donc c'est un sujet qu'on devait aborder, en tout cas, voilà. Et on aura aussi une conférence sur ce thème-là avec tous les partenaires qui travaillent sur ce thème, comme Cap Emploi, mais aussi Pôle Emploi, et bien d'autres encore.
Alors, dernière question, est-ce qu'il y aura des offres d'emploi, justement, pour ceux qui viendront visiter ce salon?
Alors, on a fait, c'est assez extraordinaire. Cette année, on a un peu explosé nos chiffres, hein, puisqu'on a déjà à peu près pas loin de 440 offres d'emploi avant même que le forum n'ait lieu. Donc, on va en recevoir encore le jour même, etc. On n'en a jamais eu autant, jamais. Alors, c'est vrai que des entreprises comme Cora Leclerc nous ont confié beaucoup d'offres d'emploi. Et ces offres d'emploi sont travaillées d'une manière conjointe avec Pôle emploi, mais on n'en a jamais autant. Je pense que l'année dernière, à la même époque, on en avait 200. Donc, une semaine avant le forum, ou 15 jours avant, on en avait... Voilà, donc 440, c'est formidable. C'est vraiment formidable.
C'est un beau présage pour ce forum.
Complètement.
C'était Annick Néron, conseillère municipale déléguée à l'insertion professionnelle, à la formation, à l'emploi et à l'égalité des femmes, au micro de Véronique Boulieu. Elle nous présentait la 3e édition du Forum des initiatives pour l'emploi qui aura lieu le mardi 14 mars de 9h à 17h à la salle polyvalente de Bourgoin-Jallieu. Vous êtes en recherche d'orientation, de formation, le lycée agricole de la Côte-Saint-André vous propose de venir rencontrer son équipe lors de la journée porte ouverte qui aura lieu ce samedi 11 mars de 9h à 18h. Gisèle Miltzin, directrice adjointe de l'établissement, nous présente cette journée dont le thème est l'agroécologie. Mais de quoi parle-t-on ?
L'agroécologie, c'est un terme qui renvoie en fait à la priorité nationale que le ministère de l'Agriculture a affichée auprès des établissements agricoles, à savoir enseigner à produire autrement à nos jeunes qui vont devenir les actifs et les agriculteurs de demain. Aujourd'hui, eh bien, de nombreux constats ont été tirés quant effectivement au modèle de production, on va dire, qui ont été prédominants jusqu'à présent, et c'est ce qu'on appelle le modèle de production intensive. Donc là, on en parle aujourd'hui beaucoup, y compris dans les grands médias. Et en fait, aujourd'hui, c'est d'enseigner donc aux jeunes et de leur faire prendre conscience de l'ensemble des préoccupations environnementales et sociétales qui aujourd'hui entourent les enjeux de l'agriculture, des modes de production et aussi de l'alimentaire, pour pouvoir effectivement produire et mener leur activité dans des préoccupations et aussi des pratiques qui sont plus vertueuses en fait pour l'environnement. Voilà, c'est de façon un petit peu schématisée, simplifiée, une façon de le dire. Mais on est sur un aspect très environnemental en fait de l'agriculture et des modes de production, tout type confondus.
Alors je vois que durant cette journée aussi, vous proposez des témoignages d'anciens étudiants étudiants.
Tout à fait.
Alors là aussi, est-ce que c'est important justement de montrer à tous ces jeunes qu'on réussit dans ce secteur-là et qu'il y a des expériences très enrichissantes?
Alors déjà, ce qui est important, hein, c'est que l'enseignement agricole se caractérise par non seulement un fort taux de réussite aux examens, mais également un très bon taux d'insertion professionnelle après avoir décroché leur diplôme. Effectivement, nous, ce que l'on souhaite pouvoir envoyer comme message aux familles, aux jeunes qui s'intéressent à l'agriculture, c'est que d'une part, les métiers qui sont proposés à l'issue d'une formation, de nos formations, eh bien, sont riches et divers. Hein. Donc, que ce soit à l'issue d'une formation professionnelle, technologique ou scientifique, parce que nous avons aussi des bacs S en établissement agricole, que de deux, eh bien, on en vit, qu'on a des professionnels qui sont motivés, qui aiment leur métier et qui aiment en parler et qui sont très heureux d'accueillir chaque année, pour la plupart, des jeunes, soit stagiaires, soit apprentis, dans leur exploitation ou dans leurs entreprises. Également aussi, eh bien, d'attirer l'attention sur lequel l'agriculture aujourd'hui est un secteur d'activité qui recrute, ce qui peut paraître un petit peu paradoxal parce que on parle aussi de population active qui diminue. On a de nombreux actifs qui aujourd'hui partent à la retraite et il s'agit effectivement de pouvoir de trouver des jeunes qui souhaitent prendre le relais, notamment dans les exploitations, parce que là il y a une vraie demande et un vrai besoin. Ça permet aussi de faire connaître aux familles qui se posent des questions, parce que l'enseignement agricole n'est pas toujours bien connu dans le public, ni non plus dans les établissements au sens large. Donc de vraiment de les informer d'une part sur les formations, ce qu'on fait durant la journée porte ouverte, c'est l'objectif, mais aussi par des témoignages qui là, ce sont des personnes qui représentent vraiment à part entière les activités, les métiers, les débouchés, des formations et de mettre effectivement véritablement un visage au sens concret du terme.
Une journée où l'on pourra découvrir effectivement l'établissement de la côte Saint-André. D'autres manifestations ce jour-là pour attirer effectivement les nombreuses personnes qui seraient intéressées par ce secteur?
Alors nous accueillons donc principalement sur l'établissement, que ce soit au CFPPA et au LECTA, donc les familles tout au long de cette journée. Nous proposons, outre des entretiens individualisés pour chaque famille qui est intéressé par une inscription pour enseigner l'ensemble de leurs préoccupations et sur nos formations. Nous proposons des visites guidées par les élèves, ce qui est en général très apprécié. Nous avons aussi, comme chaque année, un grand nombre d'animations proposées par les élèves, donc que ce soit à l'extérieur ou à l'intérieur de l'établissement. Donc ça permet aussi un contact avec les jeunes, avec des échanges, des témoignages. Bien entendu, l'exploitation agricole de l'établissement sera également aussi grande ouverte, je dirais, avec des enseignants, les personnels et des élèves pour accueillir et leur faire visiter l'exploitation. Et puis, nous aurons aussi notre partenaire, donc le centre équestre de Faramand, avec lequel nous proposons à nos élèves des filières générales et technologiques, l'option équitation et qui est une option qui permet d'obtenir des points au bac. D'ailleurs, le concours hippique que nous organisons avec le centre équestre de Faramand aura lieu cette année le dimanche 2 avril.
Un marché durant cette journée?
Tout à fait. Nous avons donc parmi les activités et les animations prévues, nous avons un marché paysan qui est animé par les étudiants BTS dans le cadre de recherche de financement pour leur voyage d'études qu'ils feront en Pologne à la rentrée. Donc le marché paysan, c'est en fait un marché qui propose un certain nombre de produits des agriculteurs pour la plupart locaux, de producteurs locaux, qui ont été contactés par nos jeunes. Nous aurons aussi une vente de fleurs de l'exploitation de la Tour du Pin. Nous avons également donc un stand sur l'agroécologie, sur lequel vous m'avez questionné précisément, pour pouvoir justement informer le grand public de ce qu'est l'agroécologie, ça veut dire quoi, concrètement dans les formations, ça consiste en quoi? Pourquoi l'agroécologie? Quels sont les enjeux aujourd'hui autour de l'agroécologie? Donc des enseignants seront présents pour informer, mais aussi pour débattre précisément des questions d'actualité et des enjeux. Une autre chose également, nous avons un projet élève autour du tri et du recyclage, donc qui sera également mis en valeur à l'occasion de cette journée par d'une part une exposition des élèves qui viennent présenter, témoigner de leurs projets et également une grande collecte de fournitures scolaires au bénéfice de jeunes écoliers du Sénégal qui sera tenue et nous avons fait une diffusion de la formation pour pouvoir collecter des fournitures du type crayon, carnet, etc. C'est un projet qui est à l'initiative des élèves, qui part des élèves, qui est porté des élèves et nous avons voulu lui donner une place lors de cette journée porte ouverte pour mettre en valeur l'action et la mobilisation de nos jeunes autour de ces questions-là. Et puis il nous semble important dans un lycée agricole précisément de lui faire la place qui lui revient. Nous aurons également la présentation des activités de l'association sportive et de l'association des élèves socioculturels du lycée. En quelques mots, ce sont toutes les animations et les activités sportives et culturelles que nous proposons à nos jeunes durant toute l'année scolaire, et il y en a un grand nombre. Donc là aussi, les enseignants pourront dire aux familles qu'il en est durant l'année scolaire, sachant que nous avons 2/3 d'internes, ce qui est important à signaler. Donc ça veut dire des jeunes qui sont dans l'établissement du lundi au vendredi sans discontinuité. Et enfin, l'association des parents d'élèves qui est toujours à nos côtés dans ces manifestations-là et qui sera présente pour, informer les familles sur l'établissement au sens général, mais aussi prendre contact, répondre des questions de parent à parent.
Une nouveauté à la rentrée 2017, l'ouverture d'une section apiculture.
Enfin, nous allons proposer un enseignement en apiculture, un enseignement que nous souhaitions porter depuis longtemps, qui va pouvoir enfin être mis en place et concrétisé en filière BTS. Donc il consistera en 3 heures d'enseignement à l'année, donc ils seront intégrés dans le cursus avec des stages et des travaux pratiques, notamment sur la ferme du lycée, et qui pourra donc être proposé aux étudiants de BTS APV et AXE, donc nos deux formations du lycée, s'ils le souhaitent, intégrés dans le cursus du BTS. Ça, c'est quelque chose que, effectivement, je souhaitais rajouter, parce que ça va être aussi un des projets que nous allons porter, mais mettre en œuvre au 1er septembre. Donc pour tous les jeunes qui sont intéressés, sensibilisés à l'apiculture, qui souhaitent travailler dans l'apiculture ou développer pour les jeunes qui s'installeront dans l'agriculture une activité en apiculture, et là ça leur donnera déjà un bon bagage pour pouvoir déjà avoir une découverte, une formation dans ce sens.
C'était Gisèle Miltzin, directrice adjointe du lycée agricole de la Côte-Saint-André, au micro de Véronique Boulieu. Plus d'infos sur www.formagri38.com.
Pour ceux qui viennent de nous rejoindre sur le 97.1, vous êtes dans l'émission L'Écho Local, une émission consacrée à l'actualité de notre territoire, diffusée sur Couleur FM tous les jeudis de 12h à 13h et rediffusée le vendredi à 19h, le samedi à 7h et le dimanche à midi.
C'est le moment de retrouver William pour sa chronique musicale et aujourd'hui on va parler de l'Eurovision et de sa future candidate française.
Tout à fait, nous allons parler d'Alma, une jeune chanteuse de 27 ans née à Lyon. Vous ne la connaissez peut-être pas, pourtant dans quelques mois elle sera candidate à l'Eurovision pour représenter la France. Elle succède à Amir qui avait fini 6e avec une chanson dansante au refrain anglais. Cette fois-ci, France Télévisions a décidé de changer complètement de style musical. Plus d'anglais, mais bien du français tout au long de la musique. On y retrouve quelques sonorités à la Stromae et une technique vocale qui nous rappelle un peu Indila. Sur internet, pas mal d'internautes étrangers sont déjà conquis par notre représentante, à l'inverse de certains français. Alors pour vous faire un avis, on écoute Requiem qui sera chanté lors de l'Eurovision 2017 en Ukraine.
Des amours meurent, des amours naissent, les siècles passent et disparaissent. Ce que tu crois être la mort, c'est une saison et rien de plus. Un jour lassé de cette errance, tu t'en iras, quelle importance, car la terre tournera encore, même quand nous ne tournerons plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné, un homme, deux ans, cent ans de bonheur. Plus la vie te cueille comme une fleur. Fais-moi ma raison, mes besoins, en attendant que sonne l'heure. Un homme, deux ans, cent ans à deux. Et puis un jour on est tout seul. On pleure mais on survit quand même. C'est la beauté du requiem. Les étincelles deviennent des flammes, les petites filles deviennent des femmes. Ce que tu crois être la mort, c'est un brasier et rien de plus. Nos déchirures, nos déchéances, on pense qu'elles ont de l'importance. Mais demain renaîtra le jour, comme si nous n'avions pas vécu. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Des amours meurent ce soir, enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Des amours naissent, des amours meurent ce soir, enfant, je n'ai plus peur. Je sais que je t'aimerai encore quand la terre ne tournera plus. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi sourire au beau milieu d'un requiem. Embrasse-moi, dis-moi que tu m'aimes. Fais-moi danser jusqu'à ce que le temps nous reprenne. Ce qu'il a donné. Ce qu'il a donné. Ce qu'il a donné. Ce qu'il a donné. Ce qu'il a donné.
C'est l'heure de la deuxième partie de notre émission. On part dans le monde de l'art visuel, place à la rubrique cinéma de Véronique Boulieu.
Votre actualité cinématographique dans votre cinéma Kinépolis à Bourgoin-Jallieu, notre partenaire pour la semaine du 16 au 22 mars 2017. Six nouveautés cette semaine, Kong Skull Island, un film d'action américain de Jordan Von Roberts avec Thomas Hiddleston, Brie Larson et Samuel L. Jackson. De plus belle, une comédie dramatique française d'Angèle Daval avec Florence Foresti et Mathieu Kazovitch. Babyphone, une comédie française d'Olivier Caza avec Médias Sadoun, Anne Marvin et Pascal Daumelon. Monsieur et Madame Adelman, une comédie dramatique française de Nicolas Bedos avec Doria Tellier, Nicolas Bedos et Denis Polalides. La Confession, un drame français de Nicolas Bourquieff avec Romain Duris, Marine Vac et Anne Leny. Et puis enfin, Les Figures de l'Ombre qui sera notre coup de cœur, un film dramatique américain réalisé par Theodore Melfi avec Octavia Spencer, Taraj Henson et Jim Parsons. L'histoire, Katherine Johnson est une brillante mathématicienne afro-américaine. En 1960, elle va se faire embaucher avec deux de ses amis ingénieurs par la NASA. Les trois scientifiques vont fortement contribuer à l'envoi du premier américain dans l'espace, John Glenn. Dans une société encore touchée par la ségrégation, c'est avec difficulté qu'elles vont réussir à se faire respecter et accepter. Si bien que leur travail ne sera jamais reconnu, le destin de ces trois femmes qui ont changé l'histoire est aujourd'hui révélé sur grand écran et à l'occasion de la journée de la femme qui était hier et puis de toutes les festivités qui auront lieu cette semaine, c'était l'occasion d'en parler. Pour plus d'informations sur les horaires des séances et si vous souhaitez gagner vos places pour aller voir un film à Kinépolis, c'est tout simple, vous téléphonez au 04 74 27 80 80, vous nous dites quel était le coup de cœur de la semaine et surtout vous nous laissez vos coordonnées.
Merci Véronique, vous êtes toujours dans l'écho local sur Couleur FM, petite info locale du jour. À l'occasion du mois de mobilisation Mars Bleu 2017, le département de l'Isère s'engage dans la lutte contre le cancer colorectal à travers une campagne intitulée « Dès 50 ans, le dépistage du cancer colorectal, c'est pour tous ». Alors pour vous donner quelques chiffres, 350 000 Isérois et Isérois sont concernés par le nouveau test, donc de 50 ans à 74 ans. Il faut le faire tous les deux ans. Le taux de participation du dépistage en Isère, ça représente 41% en Isère contre 29% en France seulement. Alors si tous les hommes et les femmes faisaient ce test recommandé, un décès sur trois par cancer colorectal serait quand même évité.
Vous le savez, la radio Couleur FM donne la parole aux enfants des écoles dans le cadre des TAP, les temps d'activité périscolaire. Aujourd'hui, nous retrouvons les élèves de l'école Liné du quartier de Champfleury à Bourgoin-Jallieu. Ils sont allés poser quelques questions à Sandrine, l'animatrice activité manuelle sous la direction d'Estelle Gély.
Comment t'appelles-tu ?
Je m'appelle Sandrine.
Quel est ton métier ?
Je suis agent d'animation.
Depuis quand fais-tu ce métier ?
Depuis 2002.
Est-ce que tu aimes ton métier ?
Oui, j'aime bien mon métier, j'aime bien travailler avec les enfants.
Qu'est-ce que tu fais en activité manuelle ?
Je fais beaucoup d'ateliers avec du matériel de récupération.
Qu'est-ce que tu fais pendant ta journée ?
Alors le matin, je commence par faire la garderie du matin. Après, je rentre chez moi. Je travaille aussi dans la restauration scolaire. Je fais les activités dans l'État. Il faut aller garderie du soir.
Depuis quand travailles-tu ? Tu à l'école Liné.
Depuis cette année, je suis avec vous.
Est-ce que tu aimes notre école Liné ?
Oui, j'aime bien votre école. En plus, je la connais puisque j'ai travaillé dans le restaurant scolaire de votre école il y a quelques années en arrière. Donc, il y a certains enfants que je reconnais.
C'était les apprentis journalistes de l'école Liné de Bourgoin-Jallieu. C'est l'heure de retrouver Mathieu pour son disque de la semaine.
C'est l'heure du disque de la semaine, je vous emmène dans les Caraïbes, proche des côtes du Honduras, découvrir la communauté afro-amérindienne Garifuna. Ils produisent une musique surprenante et authentique, et Aurelio en est un de ses porte-paroles. On va découvrir son dernier album, Darandi, dans le disque de la semaine.
Dans ce monde, les disques vinyles sont fabriqués comme des crêpes.
Qu'est-ce que c'est ?
C'est pour moi le plus beau de la semaine.
Le disque
de la semaine.
Depuis l'enfance, Aurelio Martinez avait exécuté la musique de ses ancêtres, les Garifuna, population issue d'esclaves africains naufragés au XVIe siècle qui se sont métissés avec les Indiens Arawaks sur les côtes de Saint-Vincent. Ils ont été indépendants pendant plusieurs siècles jusqu'à leur exil avec l'invasion britannique à la fin du XVIIIe. Ils se sont finalement établis au Honduras, au Belize, au Guatemala et au Nicaragua. On trouve chez eux, chez les Garifunas, beaucoup de liens avec l'Afrique, que ce soit dans le culte des ancêtres et surtout dans la musique. Aurelio est un des grands représentants de cette culture. Il est le maître de la parranda, une musique typique des Garifunas à base de guitare acoustique, une sorte de blues américain métissé afro-latino envoûtant, rempli de messages sociaux. Après avoir tissé des liens entre sa culture et le continent africain, Aurelio revient donc avec un quatrième album, Darandi, sur le label Real World, une collection de sons purs et non filtrés, après son concert au Omad à Londres. Une musique unique dans la pure tradition des Garifunas. Aurelio avec Darandi célèbre 30 ans de composition de concerts parranda. Il regroupe dans ce disque une sélection de ses chansons préférées en les jouant dans un esprit live. Aurelio tient avec sa musique à préserver la culture de son peuple qui se perd dans la mondialisation d'aujourd'hui. La musique d'Aurelio, la parranda, c'est un délicieux mélange de rythme traditionnel Garifuna et de sonorités latines. Une musique métissée à la croisée des sons caribéens, afro et latins. Fier représentant de la culture Garifuna, il s'agit pour lui d'évoquer son peuple et sa culture à travers ses 12 morceaux. Il nous parlera de son histoire, de son peuple et des combats qu'il mène à travers cette musique. Cette lutte, il l'a aussi menée en politique. D'abord élu local à La Ceiba, une ville côtière du Honduras. Il a été pendant 4 ans député au Congrès national, c'est l'équivalent de notre Assemblée nationale. Ça a été même le premier député Garifuna de toute l'histoire du pays. Après cette difficile expérience, Aurelio est revenu à sa musique. Son combat semble plus efficace à travers ses textes, où il n'a de cesse de nous conter l'histoire des Garifunas, une histoire de minorité perpétuellement en exil et peu considérée. Les tournes de guitare sont envoûtantes, ça nous rappellerait presque une sorte de rumba congolaise, bercée par le chant très profond empreint d'une certaine nostalgie. Et tout ça rythmé par les tambours, la musique très dansante. On se trouve quelque part entre l'Afrique, les Caraïbes et l'Amérique latine avec le son unique des Garifunas tout au long de ce disque. Le chanteur Garifuna Aurelio célèbre avec Darandi 30 ans d'activisme de préservation de son patrimoine culturel. Ce disque est dédié à sa culture afro-amérindienne. Il est rempli de rythmes frénétiques, de guitare surf, et sa voix unique ne peut que nous toucher. Surtout dans la condition où il a été enregistré, juste après avoir joué au WOMAD, le festival anglais de Peter Gabriel. Le son est pur et ça nous fait du bien d'entendre quelque chose de pas formaté. Je vous propose donc un dernier extrait, Aurelio Dougou. C'était Aurelio avec Dougou, le grand représentant de la culture afro-amérindienne Garifounas. Il célèbre avec Darandi son quatrième album 30 ans de musique Garifuna. Ce disque est d'ailleurs accompagné d'un livret comprenant des photos d'archives et des notes pour en savoir un peu plus sur l'histoire de cette communauté. J'espère le voir en live un jour dans le coin.
Cinéma, concert, atelier, vernissage, il se passe beaucoup de choses dans le coin. On vous a sélectionné quelques petites sorties à ne pas manquer et on commence cet agenda avec le cirque La Piste d'Or qui s'installe quai des Belges à Bourgoin-Jallieu jusqu'au 12 mars avec son nouveau spectacle Florilège. Véronique Boulieu a rencontré son chargé de communication et Monsieur Loyal, Michel Lemaire. On l'écoute.
Alors, la Piste d'Or est un des plus jeunes grands cirques français qui a repris la route depuis 4 ans, après une interruption de quelques années. Il faut savoir que l'enseigne La Piste d'Or a été créée il y a presque 60 ans par un monsieur qui s'appelait Monsieur Roger Lanzac. Pour diverses raisons, il y a eu des trous, il y a eu des périodes de calme. Et depuis 4 ans, c'est la famille Falck qui a repris le flambeau et qui a repris la route avec le cirque La Piste d'Or. Alors cette année, un nouveau spectacle, le spectacle Florilège, avec une exclusivité du cirque. C'est nos amis Elsa, la Reine des Neiges, et Olaf. Et un grand spectacle digne des cirques traditionnels animaliers, avec les fauves, la cavalerie. Un numéro de cavalerie particulier, puisque cette année, c'est une cavalerie irlandaise. C'est la seule cavalerie irlandaise présentée sur une piste de cirque en France. Elle est composée de 3 Irish Cops. Et ensuite, nous avons la mascotte du cirque, Maya, l'éléphante de 49 ans et de 5 tonnes de masse musculaire. Après, spectacle traditionnel avec magicien, clown, jongleur à combattre. Et un monsieur qui lui, marche au plafond, parce qu'il a décidé de marcher au plafond. C'est Léon Navas, il a été primé dans de nombreux festivals de cirque. Et il a un numéro prenant et époustouflant.
C'était Michel Lemaire, chargé de communication, et le monsieur Loyal du cirque La Piste d'Or. Si vous souhaitez assister à l'une des représentations du samedi 11 mars à 15h ou à 18h, vous pouvez gagner vos places sur Couleur FM en nous téléphonant au 04 74 27 80 80 et vous nous laissez vos coordonnées.
La salle de Lille présente le quatuor Salut Salon, 4 jeunes femmes allemandes qui mélangent musique et humour. C'est à découvrir ce lundi 13 mars à 20h30 à Lille d'Abbeau.
Le 16 mars, soirée débat « Qu'est-ce que la démocratie ?» avec l'association Philo et Partage à Saint-Alban-de-Roche à 20h15.
L'Université populaire fait sa rentrée. De janvier à mars, le réseau des médiathèques CAPI propose des conférences autour de l'économie, des conférences gratuites et ouvertes à tous. Prochaine date à noter, les crises de l'économie européenne, le jeudi 16 mars à 19h30 à la médiathèque CAPI.
Au mois de mars, l'association INIS vous propose des interventions autour de la parole et de l'écriture féminine. Il vous donne rendez-vous pour Chansons de femmes le vendredi 17 mars 2017 à 20h à la salle Balavoine à Villefontaine. Toujours le 17 mars, le paradoxe de Fermi, sommes-nous seuls dans l'univers ? Une soirée animée par François André à 20h à la salle Balinalisée de Champaret à Bourgoin-Jallieu. 10e édition de la Nuit de l'eau en partenariat avec l'UNICEF le samedi 18 mars de 18h à 22h à la piscine Bellevue à Saint-Quentin-Val-Lavier, nager pour les enfants d'Haïti.
Et puis jusqu'au 18 mars, la médiathèque de Saint-Savin et l'atelier photo des donjons de Dantézieux vous proposent une exposition de 33 photographies sur le thème des ombres et lumières, une exposition à découvrir les mardis, mercredis et samedis.
À gagner sur Couleur FM, des places pour le match CSBJ Albi, ce vendredi 10 mars, toujours le même principe, vous nous téléphonez au 04 74 27 80 80.
L'école locale touche à sa fin. Retrouvez nos émissions également sur le site internet de Couleur FM ou en rediffusion le vendredi à 19h, le samedi à 7h du matin et le dimanche à midi. Une émission présentée par Véronique Boulieu,
Estelle Gély,
sans oublier William à la technique. On termine avec la citation du jour présentée par Véronique.
Le 8 mars, c'était la journée internationale des droits de la femme et j'ai choisi une citation d'une grande dame, Simone de Beauvoir. Elle est née dans une famille bourgeoise et catholique. Elle entreprend à l'âge de 17 ans des études de lettres et de mathématiques. En 1926, elle adhère à un mouvement socialiste et suit des cours de philosophie à la Sorbonne pour préparer le concours de l'agrégation. C'est à cette époque qu'elle fait la connaissance de Jean-Paul Sartre, qui fréquente le même groupe d'étudiants qu'elle. Débute alors une vie commune, sans cohabitation, ainsi qu'une collaboration et un dialogue intellectuel qui vont durer pendant près d'un demi-siècle et rendre le couple de penseurs mythique. Tous deux reçus à l'agrégation, ils deviennent professeurs. C'est alors le temps d'une courte séparation, puisque Jean-Paul Sartre est envoyé au Havre et Simone de Beauvoir à Marseille. Après la Seconde Guerre mondiale, elle fait partie du comité de rédaction des Temps modernes, le journal fondé par Jean-Paul Sartre. Son premier livre, L'invité, paraît en 1943. Les voyages se succèdent alors à partir de 1947. Simone de Beauvoir se rend aux États-Unis, séjourne en Afrique, en Europe, visite la Chine en 1955, Cuba et le Brésil en 1960. Elle publie Le deuxième sexe, livre phare du féminisme français en 1949 et devient ainsi une personnalité très controversée à cause de ses prises de position, notamment en faveur de l'avortement. Récompensée par le prix Goncourt en 1954 pour Les Mandarins, elle délaisse cependant le genre romanesque au profit de l'essai et de la rédaction de ses mémoires. Auteure reconnue et icône du féminisme, Simone de Beauvoir reste indissociablement liée à Jean-Paul Sartre et au courant philosophique de l'existentialisme auquel elle a également contribué. Deux citations de Simone de Beauvoir que j'affectionne particulièrement. « Les femmes se forgent à elles-mêmes les chaînes dont l'homme ne souhaite pas les charger » ou encore « On ne naît pas femme, on le devient ». Notre invitée du jour était Sandrine Frison. Alors, est-ce que vous avez une petite conclusion à nous faire avant de se laisser en musique?
Eh bien, c'était déjà une bonne découverte parce que je ne connaissais pas. J'ai voulu rester avec vous. Je suis un peu déçue parce que notre conseillère n'a pas parlé du handicap mental. J'irai participer. Et puis apporter un petit peu mon regard pour que ces personnes-là, elles aussi, puissent trouver un travail par la suite. Merci à vous de m'avoir accueillie.
Alors on termine en musique avec le coup de cœur de Guy qui anime l'émission Chant Libre. Il s'agit de Rodolphe Burger. L'album Good est le quatrième album solo qu'il a fait, un album dans lequel l'alternance de titres chantés en français et d'autres en anglais rappelle l'importance des textes pour l'ex-leader du regretté Cat Onoma, une pulsion rock pour des ambiances teintées de poésie. Le titre choisi, Rien ni personne.
Tu ne tueras pas ni tes camarades, ni tes profs, ni tes voisins. Tu ne tueras pas ni à Srebrenica, ni à Tel Aviv, ni à Jenin, ni à Alep, ni à Atlanta. Tu ne tueras pas parce que Dieu t'attend en buvant sous la treille. Tu ne tueras pas ni pour la loi, ni pour l'État. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne. Tu ne tueras pas pour le tiroir caisse de la boulangère. Tu ne tueras pas pour l'adrénaline ou pour le flash. Tu ne tueras pas pour le compte d'un souteneur planqué sous les tropiques. Tu ne tueras pas pour te venger. Tu ne tueras pas ni pour jouir ni pour mourir. C'est le premier et le dernier, et c'est le seul commandement. Tu ne tueras point, veut dire, tu ne tueras pas, c'est tout. Rien ni personne.